Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jaume Balagueró, bonjour.
Buongiorno del Gusto Diaz, Nicolas.
Merci beaucoup d'être avec nous pour ce 30e anniversaire du festival de Gérardmer. Vous êtes le réalisateur de REC. L'horreur pour vous, c'est quelque chose de viscéral. Es visceral el horror.
Claro que sí, pero que me gusta mucho, mucho al Festival del Kino. Sí, claro que sí, porque...
Mais la qu'est-ce película... que vous foutez?
De rien.
L'interview de demain de Kim Ji-woon, c'est avec le vrai Kim Ji-woon.
Oui.
Et maintenant, voici les vedettes.
Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie.
Je vais ranger ma chambre. En échange, vends-moi ton âme immortelle.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Oh, Sandy, je suis désolé, mon Dieu, c'est affreux.
Qu'est-ce que c'est que t'attirail ? Douche portative ou une cage à singes ?
Quelle excellente journée pour un exorcisme.
Ne la touche pas, sale pute !
Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes au dernier jour du Festival international du film fantastique de Gérardmer qui fête cette année ses 30 ans. Et 30 ans, c'est à peu près l'âge qu'on a pris physiquement après ces 5 jours de festival. Les nuits sont courtes, le fromage fondu s'est entièrement substitué à toute autre forme d'alimentation. Oui, mais nous ne ménageons pas nos efforts pour vous faire vivre le festival par procuration. Et notamment avec cet épisode spécial et l'interview de 3 membres éminents du jury. Parce que le cinéma, c'est ce qu'il reste de la vie. Et je vous assure que la mort nous va si bien en ce moment. Et tout ce que vous allez entendre est évidemment réalisé 100% sans trucage. Et pour commencer, la présidence bicéphale de ce 30e anniversaire, Michel Hazanavicius et Bérénice Bejo, qui ont récemment mis en scène et joué un remake de la comédie horrifique japonaise de Shinichiro Ueda, One Cut of the Dead, coupé en français, et c'est Arthur et Sophie qui les passent sur le grill.
Non, mais du coup, on a un peu de temps, on voulait discuter de Gérardmer, de cinéma d'horreur, de genre fantastique, d'expériences passées que vous avez eues, mais pour commencer, comment vous allez, Michel et Bérénice ?
À vous, Bérénice.
Merci, Michel. Eh bien, moi, je vais bien, j'aime beaucoup, en fait. Être dans la salle, voir des films que j'irai pas voir a priori, donc être obligé de voir des films, et en fait ça m'amuse, je prends beaucoup de plaisir, le public il est super sympa, donc j'aime participer. Aujourd'hui c'est moi qui ai fait le cri de la sorcière,
je sais pas si c'est vrai, dans la salle. Bravo,
félicitations. Je l'ai fait un petit peu trop vite parce que j'avais tellement envie de le faire que voilà, mais
tu le referais pas là?
J'ai hésité à poser la question, mais j'avoue
je le referais tout à l'heure dans la salle, mais je l'ai bien fait hein,
mais ultra bien.
Ouais. J'ai bien remonté le nez et tu vois, je me suis imaginé en sortir avec une grosse verrue et c'était cool.
Non, méthode acting, c'est... rien que pour un cri. Quoi? Vraiment. Méthode acting,
ouais,
vraiment.
Ouais, bah, tout hyper. Non, je me suis préparée quand même. Donc voilà, ça se passe très bien.
Et mais moi aussi, moi j'adore. Là, je suis en train de faire un dessin animé, donc je suis en... c'est ultra laborieux, ouais. Compliqué. Ça demande vraiment beaucoup de temps et de travail. Donc là, je suis dans une espèce de petite parenthèse enchantée. Avec des membres du jury hyper sympas, à part deux connards, mais sinon les membres du jury sont hyper
les
sympas.
Les deux avec qui tu jouais au billard,
entre autres. Ouais, non, disons trois donc.
D'accord.
Et non, membres du jury hyper sympas. Et puis surtout, franchement, les projos, le public est quand même super marrant, hyper bienveillant. Il y a un truc de... mais on avait vu ça un peu à CJS avec Coupé, on a été à CJS qui est l'autre festival européen de films fantastiques, et en fait comme c'est de la niche un peu, ou que c'est un truc, il y a un côté club et les gens sont tellement contents d'être là, il y a un truc vraiment de plaisir de spectateur qui est hyper tangible, donc c'est vraiment agréable quoi, c'est vraiment agréable d'être là.
Bon, après, c'est le deuxième jour. On en reparlera à la fin du festival quand il y aura eu toutes les soirées. On les connaît.
Toute la raclette.
Bien sûr. On verra dans quel état vous êtes dimanche.
Ouais, mais ça reste quand même... C'est hyper sympa. C'est hyper sympa.
Par rapport au genre et au cinéma fantastique, on avait juste une première question pour savoir qu'est-ce que ça représente pour vous ? Qu'est-ce que c'est pour vous, l'horreur ?
Tadadam.
Ouais, moi, pour moi, l'horreur, c'est vraiment tout ce qui a à voir avec... la psychologie des gens qui deviennent fous, qui manipulent les autres. Enfin, okay. Dès que ça a à voir avec ça, ça me fait peur. Ça, j'aime pas. J'aime bien, mais ça me fait vraiment peur. Et puis, ça me met vraiment mal à l'aise. Et puis, ça peut me faire pleurer. Ça peut vraiment me procurer les émotions désirées par le réalisateur, quoi. Donc, il faut que ce soit un film d'une extrême qualité pour que j'aie envie de le revoir. Comme Shining, ou Misery, deux livres de King, de Stephen King. Mais sinon, par exemple, Délivrance, je sais que je ne le reverrai jamais. Bah, c'est bon, les images, elles me sont restées dans la tête, je n'ai pas besoin d'y retourner. J'arrive pas à dépasser ma peur dans Délivrance. J'arrive pas à prendre le plaisir que j'ai de voir Jack Nicholson jouer dans Shining ou, comment elle s'appelle, Kathy Bates dans Misery. Voilà, là, c'est trop violent pour moi après.
J'allais dire donc plutôt une horreur tangible plutôt que fantastique, c'est ça qui va créer de la peur chez vous, plutôt que les esprits, les fantômes, les dragons,
Non, ça va m'amuser, mais ça va pas m'atteindre. Voilà.
Et vous ?
Moi, j'ai effectivement tout ce qui est, comment dire, tout ce qui part d'une situation plausible, un peu normale, et quand c'est bien fait, qui amène des personnages auxquels je peux m'identifier à faire des trucs extrêmes. Alors, soit en tant que victime potentielle, soit en tant que bourreau, ce qui est peut-être encore plus terrifiant parce que ça vous projette dans des trucs vraiment hyper noirs de vous-même. Ça peut me faire peur. Et après, je crois qu'il y a des thèmes quand même, parce que là, on reparlait de The Descent. Et moi, par exemple, je sais que je pense que je suis un peu claustrophobe. Enfin, c'est pas que je pense, je suis un peu claustrophobe. Et l'idée même de la spéologie fait que, de toute façon, même si c'était rien passé dans le film, on voyait. Il y a un film qui s'appelle Le Trou, Il Buco, un film italien.
Ouais.
Bah, même ça me fout super mal à l'aise, parce qu'en fait, après, chacun, on a tous nos petites phobies, nos trucs.
Nos limites, bien sûr.
Ouais, exactement. Donc, quand ça touche à des choses. Voilà, moi je vous dis, la spéologie, je rentre tout de suite en arythmie cardiaque, j'ai du mal à respirer et tout ça. Donc on a été voir The Descent.
Ça, c'est pour la petite anecdote.
Pour la petite anecdote, on était ensemble, ça fait maintenant 18 ans qu'on était ensemble, mais là ça faisait genre 18 jours. et elle me dit, viens, on va au cinéma. Je dis, ok, viens, on va au cinéma. Et elle me dit, il y a un film que j'ai vraiment envie de voir, c'est The Descent et tout. Je dis, ok, The Descent.
Le titre vous a pas indiqué un peu le sujet du film, quoi.
Non, The Descent. Je me dis, je parlais pas bien.
Descendons, quoi, ok. Ouais,
non, je me suis dit, c'est un mec décent, quoi. Ouais. C'est quelqu'un de décent, tu vois. Je parlais pas très bien anglais, tu vois. Et donc, donc j'y vais. Et franchement, au bout de 20 minutes, je me dis, mais elle est complètement gogole, la meuf. Elle m'emmène voir un film de gogole, quoi. Et en fait, le film est ultra bien fait.
Ouais.
Déjà, mais moi, déjà, quand ça commence, la spéléologie, je suis déjà pas bien. Après. Les créatures là, toutes blanches, avec les yeux noirs et tout, cauchemar, et la fin hyper réussie, tout ça. Enfin, donc le film reste malgré tout.
Après, je l'ai emmené voir une rétrospective sur Capra, Scorsese et tout ça. Hein, mais
N'importe quoi. Après, on a enchaîné avec des Pixar.
Mais c'est chouette de voir ça comme limite, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est le gore comme cinéma de genre d'horreur. Ça vous fait par contre pas d'effet, le gore.
Non, bon, il y avait.
Moi je baisse la tête quand même. Là, hier, on a vu la tour de Guillaume Niclou. Je sais qu'à un moment donné, il lui explose le visage. Bon, là, j'attends, j'entends le bruitage, je sais ce qui se passe, je sais qu'il va y avoir un contre-champ, j'imagine un peu. Et après, je lève la tête, je regarde pas. Je trouve ça trop dégueu, quoi. Même dans Irréversible de Gaspard Noé, je regarde pas.
Là, c'est carrément. Oui, parce que là, c'est pas du. Il y avait un film qui s'appelait Bad Taste.
De Peter Jackson.
Alors moi, ça, j'avais bien kiffé, par contre.
Ah, je connais
ça.
Pas.
Et ça, c'était... Mais c'est il y a longtemps, c'est années 80.
Ah oui, c'est les années 80. Mais ça, peut-être, il y a aussi un truc, ça reprend un peu la série B, la série Z, que vous avez repris dans Coupé, en fait.
Ouais,
qui reprend ce truc-là du savoir-faire, de l'artisanat. On voit que c'est pas du vrai, quoi.
Il y a un peu un jeu formel quand ça devient un jeu... Ouais, enfin, il y a une distance, quoi. Mais de toute façon, après, moi, je pense que je suis plutôt un réalisateur de comédie. Donc, quand les trucs me font vraiment peur, j'ai un truc qui se met en place où je commence à chambrer direct. Quoi. Et donc, du coup, je me protège. Mais je me protège parce qu'au fond, j'ai peur. Quoi.
Mais justement, j'ai une question. Quand on travaille sur Coupé, qui démontre un petit peu tout le côté presque cartoonesque de la manufacture d'un film d'horreur, à savoir rajouter du sang, couper une main, mettre une prothèse. Est-ce que ça n'enlève pas la peur devant le cinéma d'horreur ? Est-ce qu'on se dit pas, on n'imagine pas du coup tous les trucages derrière, je pense à la tour, est-ce qu'on n'imagine pas justement le...
Mais même si tu sais, si t'es dans l'histoire quand même...
Ça,
que...
ça n'enlève jamais de, non, de savoir
c'est
l'arrière.
Non, c'est quand même crade quoi. Enfin,
non, mais quand on est spectateur, on est spectateur.
Ouais, on est vraiment spectateur.
Et quand un film est bien fait, il te prend un endroit qui est juste, je m'assois dans une salle et la lumière s'éteint. Il te prend et il t'amène avec un, comment dire, une mise en place de situation. Il t'emmène à un endroit où soit tu es en opposition et tu fais non, vas-y, c'est de l'hémoglobine et tout, mais en fait, tu te protèges. Soit sinon, si c'est bien fait, tu te laisses aller, tu te laisses porter. Et en fait, il y a un plaisir.
C'est quand même un personnage qu'on défonce, qu'on a suivi depuis une heure, on le connaît plus ou moins, et puis bon,
mais,
c'est pas très
agréable. Il y a un plaisir, de, comme quand on est mais qu'on est caché dans une armoire, et il y a un plaisir un peu
mais c'est
malsain,
vrai qu'il y a...
mais noir. Quoi,
je pense qu'il y a des réalisateurs ou des acteurs qui ne rentrent pas, c'est ça
c'est
que je veux dire.
Oui. Ah, c'est sûr.
Non, mais, alors moi, je suis très très bonne spectatrice, je ferme les yeux, je pleure, je rigole, enfin ouais. Que ça me plaise ou pas, en fait, que j'aime le film ou pas, de toute manière, j'arrive pas à voir les trucs.
Ouais.
Enfin, j'arrive pas. Si, il y a des films, je vois les trucs, mais ces trucs, ça, tout ce qui est violence et tout ce qui est. Mais je crois que la dernière fois que j'étais venue, il y avait des viscères dans tous les sens et tout ça. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, bah, tu t'habitues. Quand on a regardé Kingdom sur Netflix, c'est une série. Bon, bah, au bout d'un moment, on est habitué. Ils mangent, ils font du bruit, il y a du sang, ils ont du sang partout. Bon, ça me fait rire. Au bout d'un moment, je connecte avec l'histoire parce que j'ai adoré quand même la première saison. Et je vois plus tous ces trucs-là. Enfin, je peux les regarder, quoi.
Mais quand c'est bien fait, quand c'est bien écrit, en fait, vous avez des enjeux de personnages. Dernier train pour Busan, vous savez bien que c'est pas des vrais trucs,
ouais,
etc.
Ouais, bien sûr.
Mais les enjeux de personnages font que, parce que si vous y croyez pas, parce que vous êtes réalisateur, vous croyez à aucun film. Vous savez bien que Brad Pitt, il est en train de parler à quelqu'un et on coupe et on prend l'autre et on fait, on le sait en fait tout ça. Mais le être spectateur, il y a un truc qui s'appelle la suspension du principe d'incrédulité, et enfin le principe de suspension de l'incrédulité, et en fait ça marche là-dessus. Si vous ne suspendez pas votre incrédulité, c'est sûr que ça ne marche pas. Mais je pense que si vous ne le faites pas, c'est par peur.
C'est ça, c'est parce qu'il y a un mécanisme, et en fait il y a des films, parce que là c'est vrai qu'on parle de La Tour qui a quelque chose
c'est une scène, hein.
Oui, ouais. Mais qui est ancré dans une forme de réalité, de réalisme. Mais quand on prend des films comme, Freddy 3 ou des choses comme ça.
Ou quoi
Des sauts, les choses au contraire où c'est vraiment
exacerbé.
Pas, ces
films, c'est vrai.
Mais,
c'est vrai qu'a priori, j'y vais pas.
Voilà, là, des fois, c'est sûr qu'on a un mécanisme de défense qui se met en place en mode j'imagine le mec derrière en train de jeter du sang sur la comédienne parce que.
Vous vous raccrochez aux branches, en fait, quand on fait
oui,
ça.
C'est ça.
Vous voulez exprès sortir d'un endroit où vous êtes mal à l'aise. Bah, donc, vous allez chercher. Oui, mais c'est du cinéma.
Mais quelque part, c'est aussi ce qui se passe au début de Coupé. On va pas, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent et qui n'ont pas vu, on va pas raconter, mais ce qui se passe au début de Coupé, c'est aussi ça. L'incompréhension, essayer de comprendre, mais là, je vois un truc que je devrais pas voir.
Ah bah oui.
Ça joue que sur ça aussi.
Alors, pour moi, c'est une expérience un peu, je dirais pas inédite, mais très spéciale, Coupé, parce que pour moi, c'est vraiment du non-cinéma. C'est-à-dire que c'est un endroit, c'est ni un pastiche de film d'horreur, ni surtout pas une parodie ou tout ça. Il n'y a pas de volonté de rendre tout ça drôle. Il y a une volonté de rendre tout ça au-delà d'inefficace. C'est-à-dire
la première demi-heure.
La première demi-heure. Donc c'est vraiment du non-cinéma. Les effets ne sont pas là. L'avancée de l'histoire n'y est pas non plus. Y a pas non plus. On n'en fait pas un truc très drôle dans le sens avec des vannes comme ça. J'ai essayé quand même de garder un intérêt dramatique pour pas que ce soit un pinsum total. Mais c'est vraiment du non-cinéma avec des non-histoires, des non-acteurs dans le sens où les acteurs ne sont pas en position de jouer. C'est un espèce de grand refus d'obstacle.
En plan séquence quand même.
En plan séquence, ah non, mais je dis pas que c'est simple à faire. Au contraire, non, c'est hyper compliqué parce que quand vous faites un plan séquence, vous avez envie de l'améliorer tout le temps. Et là, il fallait surtout pas l'améliorer parce que évidemment après, on a besoin de tout ça pour que le film fonctionne. Mais ça fonctionne pas. Je dirais, y a un peu l'utilisation des codes de films de zombies. Il y a un peu des échos ou des motifs dans le décor. Il y a un côté Romero. J'aime bien parce qu'on peut pas dire romérien parce que tout de suite
on pense à tout à fait autre chose.
C'est pas tout à fait le même cinéma, mais
ce serait intéressant.
J'aime bien l'idée que Romero soit le romère italien quand même.
Ouais, c'est ça. C'est un peu ça.
C'est un peu traître, mais
j'aurais bien aimé voir un film de zombies de Romero. Mais...
Vraiment ?
Pas sûr. Hein ?
Pas sûr. Pas sûr.
Really ?
Mais donc, ouais, donc voilà. Donc, il y a des motifs, il y a des trucs. Mais c'est plus, pour moi, du non-cinéma, quoi.
Et donc, pour vous, couper, c'est pas du cinéma de genre ?
Non, pour moi, c'est comédie de tournage, pour moi. Ouais. C'est une comédie de tournage. Mais.
Non, je pense qu'il avait pas sa place à Gérard, mais honnêtement. Mais,
Ah ouais ?
Bah non, c'est un film sur un tournage. C'est pas un film fantastique.
Sa place à Gérard, mais moi, par contre.
Évidemment, il aurait gagné tous les prix, Michel. Mais je pense que les gens auraient été un peu déçus parce qu'en fait, c'est un film sur un tournage.
Oui, parce que l'original avait pour le coup fait pas mal de festivals de genre, ouais, notamment. Ouais, il était au BIF.
Mais pourtant, il est pas fantastique. Il est hyper vrai.
Non, mais si, oui, mais
il parle de ça. Il parle de cet art-là, en fait.
Ouais, non, moi, je pense qu'il est, il aurait. De toute façon.
De toute façon, j'ai le droit de dire des conneries. Ça te permet de briller par ton intelligence.
Non, je pense que n'importe quoi, la meuf. Non, je pense que de toute façon, c'est quand le sélectionneur met un film, non, je pense qu'il aurait, par rapport au public, je pense que oui, ça parle de ça, même si c'est à la périphérie et tout. Mais c'est pas une comédie. Par exemple, Shaun of the Dead, c'est une comédie.
Oui, là, ça marche,
c'est, okay. Il y a des zombies, quoi. Ouais, moi, j'ai des acteurs qui jouent zombies, donc c'est un peu une mise en abîme comme ça. Donc c'est très distancié par rapport au genre. J'ai un degré, voire deux degrés méta avant d'avoir accès au genre, quoi. Shaun of the Dead, c'est direct, quoi. C'est vraiment des zombies. Donc,
Mais vous, Bérénice, quand vous jouez dedans, il y a un moment aussi où on doit jouer l'actrice du film d'horreur qui crie, qui tue. Il y a quand même, on retrouve ces codes-là malgré tout.
Ah oui, non, il y a un moment donné, je joue vraiment dans un film de zombies, un film d'horreur. Je pense pas, je suis une comédienne qui fait. Oui, évidemment, on rentre dans les codes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vu des films de ce genre-là, parce qu'en fait, j'avais pas les codes. Et il faut y croire quand je commence à raconter l'histoire. Et là, il semblerait que sous terre, c'est complètement débile, quoi. Donc, il faut quand même être hyper premier degré pour que ça marche, que les spectateurs y croient, parce que sinon, c'est pas drôle, quoi. Donc, non, bien sûr. Là, j'étais dans un film de genre. J'ai bien aimé.
Je sais que vous auriez aimé jouer dans d'autres films de genre peut-être plus frontal. Enfin,
frontaux.
Je sais pas trop. Je suis pas sûr. On vient de manger une raclette. Il y a un moment, la conjugaison n'existe plus.
Il y a pas de problème.
Mais je sais que voilà, c'est
comme
un plaisir.
Vous autres, les critiques, vous nous jugez quand même. C'est votre boulot. Alors
n'hésitez
nous,
pas.
De temps en temps.
Tout à fait. Quand on se rate, quand une question est ratée, évidemment, c'est votre rôle.
En plus, vous nous jugez pas trop.
Non, mais du coup, je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, de jouer dans ce cinéma-là, justement, d'aller vers ça. Quelque chose que vous aimez.
Je m'en étais pas aperçue, mais c'est vrai, quand j'ai vu La Nuée de Juste Philippot ou Teddy des frères Boukarma, je me suis dit, j'adorerais être dans ce genre de cinéma-là. J'adorerais participer à cette aventure parce que j'aime bien la nuée. J'ai vraiment en plus c'est un personnage féminin, donc je me suis totalement identifiée. J'ai à peu près le même âge, donc je me dis j'aurais pu vraiment le faire, j'aurais aimé le faire, j'aurais pris du plaisir. Et je trouve que le film est très réussi. Il a une dimension sociale hyper intéressante. Ça va vraiment super loin. Ça fait peur, c'est impressionnant et en même temps c'est quelque chose de très réaliste. Enfin, qui m'a vraiment beaucoup plu. Et la fin est sublime. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la fin. Mais là, je vais faire un film de Xavier Jean, qui est un film d'anticipation sur des requins qui évoluent mal à cause de nous, à cause de la pollution. Donc voilà, peut-être je serai là l'année prochaine.
Mais après, pour les acteurs, c'est quand même... les situations, elles sont à 140%. Ouais. C'est génial à jouer. C'est plus intéressant. Enfin, c'est plus intéressant, j'en sais rien. Mais c'est plus engageant pour des acteurs... d'avoir des situations hyper fortes que de jouer des choses plus banales, quoi.
Non, mais si, t'as raison, mais c'est surtout que ça fait 25 ans que je fais ce métier, que j'ai abordé pas mal de films très réalistes où je souffre, je suis malheureuse, je suis machin. Et là, tout d'un coup, quand j'ai reçu le scénario de Xavier, c'est vrai que je dis à Michel, mais ça, j'ai jamais fait, en fait. C'est une scientifique qui est confrontée à quelque chose de surnaturel. Et donc, j'ai des situations que j'ai jamais faites, en fait. Je suis dans l'eau, j'ai un requin, je me bats. Enfin, il y a un truc, effectivement, je sais que le corps va être dans un état particulier, quoi, que j'ai pas vécu, que j'ai jamais fait. Donc, c'est vrai que je suis hyper excitée de faire ça, ouais.
Michel, vous y pensez, vous, des fois, à faire un film premier degré
dans la piscine? Souvent, ouais.
Souvent ?
Ouais.
Non, à faire un film d'horreur 100% premier degré
Non, parce que je réagis pas comme ça. Enfin, je fonctionne pas plutôt comme ça. D'abord, je fais les films vraiment les uns après les autres. Donc, j'ai pas de... Alors, ouais, j'aimerais bien faire un western, par exemple. Mais je suis pas du tout sûr que je le ferais. Donc, j'ai des petits fantasmes comme ça. Si, à un moment donné, j'ai une idée d'un, ou une envie de film qui passe par le genre, ou l'horreur ou quoi, avec plaisir. J'ai vraiment rien contre, etc. Mais c'est, mais j'arrive pas à me dire, ah, ça va être, je veux faire un film d'horreur. Ou, il faut qu'il y ait un truc en plus, quoi. Il faut qu'il y ait un truc en plus, mais enfin en plus. C'est pas exactement plus un truc plus loin, une autre dimension.
Et pas, si juste ça passe par là, pas juste du sang le, et ouais, un monstre.
Exactement. Exactement.
Non, mais
exactement.
Tu peux te dire, par exemple, j'ai envie de faire une comédie.
Oui, mais le champ de la comédie est tellement plus large. Ouais. Et en fait, moi, c'est tellement plus mon univers naturel. Mais c'est pour ça que je dis ça. Ouais.
C'est pas ton univers naturel. Après, tu aurais un scénario écrit que tu trouverais génial, tu te priverais pas de le faire, je pense. Si vraiment ça te plaisait. Mais bon, c'est vrai, c'est 2 ans de sa vie, quoi. Donc, t'as vraiment envie d'aimer le scénario dans lequel tu te plonges, l'univers. Voilà, il y a des gens qui adorent ça. Je veux dire, Alexandre Aja, il fait que ça, je crois. Ah bah oui. Voilà, oui. C'est vraiment son truc, quoi.
Mais c'est Quentin Dupieux qui disait dans une interview que lui, il adore le cinéma d'horreur, il en regarde énormément, mais ce qui lui ferait peur, c'est de passer justement des semaines et des semaines de tournage avec des acteurs qui font que hurler, qui doivent jouer la souffrance en permanence, la peur. Et il dit, pour moi, c'est usant et ça m'attire pas du tout. C'est pour ça que je posais un peu la question aussi de est-ce que c'est quelque chose qui peut rebuter, quoi.
Puis il y a aussi, couper, ça se rapproche, même si on en a parlé, ce n'est pas complètement dans le genre pur de l'horreur ou quoi que ce soit, mais on flirte avec la comédie d'horreur qui est devenue, avec les années, un genre en soi. Bérénice, vous parliez plutôt d'un pan qui se développe de l'horreur sociale, de l'horreur... En fait, on voit qu'il y a plein de mouvances qui se développent.
Mais Shaun of the Dead...
Mais c'est ça, et Shaun of the Dead, c'était un grand pas dans la comédie horrifique populaire. Ça, pour le coup, ça pourrait s'en rapprocher un peu plus, de dire, je vais faire... pour moi, en fait, voilà, j'imaginais plutôt la question sur est-ce qu'une comédie horrifique, prendre les codes du genre pour le faire vraiment en comédie, est-ce que c'est un truc qui vous tente ou pas, ou c'est vraiment juste au feeling de l'histoire.
Shaun of the Dead, t'aurais eu le scénario, je pense que tu l'aurais fait.
Bah, oui, oui, non, mais Shaun of the Dead, c'est vraiment. Le film est impeccable, hilarant. Non, je peux pas dire que c'est un truc qui me tente, mais. Si je croise la route d'un truc, vraiment, pourquoi pas. Mais je vous dis, là, je suis sur un dessin animé qui est un conte, qui est un film, comment dire...
qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc dans une horreur plus, réaliste.
Mais donc, je suis vraiment là-dedans, en fait. Mm. Et je ne sais pas ce dont j'aurais envie après et tout ça. Mais je ne me pose pas des jalons, j'ai pas des cases à cocher, quoi. Mais pourquoi pas, vraiment, j'ai rien contre.
Bon, Sophie, il faut qu'on écrive un scénario de comédie horrifique et qu'on le propose à
après à son dessin.
Mais carrément. Non, mais alors, par contre, je lis tout. Ouais.
Bon, bah, merci beaucoup.
Bah, merci à
vous.
Bonne fin de festival. Bon courage pour les prochaines raclettes. Et les,
prochaines... et pour les prochains films aussi.
Les prochaines raclées de bière, en plus.
J'attends de voir ça. Okay. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.
Deux salles, deux ambiances, on retrouve Sébastien Marnier, réalisateur de L'Origine du Mal, et interrogé par L'Origine du Mal, avec un accent circonflexe, évidemment Simon Rion et son odieux factotum.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Sébastien Marnier.
Bonjour à tout le monde.
Qu'est-ce que c'est que l'horreur pour vous?
Ça, c'est très très vaste. Du coup, on y pense beaucoup quand on est à Gérard Armé d'essayer de définir un peu ça. En fait, maintenant, il n'y a plus rien qui me fait peur. Donc ça me fait un peu chier. Mais ce qui me fait peur, je crois, que quand c'est plausible. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, en fait, où j'ai l'impression que ça touche à des choses tout à fait envisageables, en fait, mais sur, peut-être quand même aussi quand même à des trucs de peur primale, en fait, de trucs d'enfant. Mais il y a des choses vraiment qui me font pas peur du tout, en revanche.
C'est plutôt l'homme à la hache que les fantômes, en gros.
Alors, les fantômes, j'adore, mais ça me fait pas du tout peur. Les esprits, pas du tout non plus, ça m'a jamais fait peur. Mais oui, c'est plutôt le mec caché dans un coin, en fait. Mais ça, c'est lié à des peurs primales d'enfant. En fait, moi, d'un seul coup, le truc fondateur pour moi et tout, c'était vraiment de voir en deux jours Shining Orange Mécanique à 12 ans, ce qui était trop tôt, en vrai, quoi. Et en fait, Orange Mécanique, ça m'a vraiment terrifié, en fait. Mais parce qu'il y avait quelque chose que j'imaginais possible, en fait. Et je crois que ça n'a jamais vraiment changé.
Ce qui est intéressant, Sébastien, c'est que vous êtes un enfant du genre, c'est-à-dire que vraiment l'horreur ou le fantastique, ça a une grande place dans votre cinéphilie initiale, hein, vous en avez parlé dans plein d'interviews. Et dans tous vos films, on a le sentiment, on vous définit comme un réalisateur de films de genre, alors que vos films ne sont pas à proprement parler des films de genre, mais on est toujours sur une sorte de ligne de crête ou de frontière. Est-ce que vous auriez envie d'aller jusque dans l'horreur, c'est-à-dire d'aller plus loin, ou est-ce qu'au contraire, c'est cette zone-là qui vous intéresse dans ce que vous écrivez, puisque vous êtes aussi le scénariste de tous vos longs métrages?
En fait, il y a quand même quelque chose qui se passe en ce moment qui est vraiment intéressant sur cette porosité, justement, entre le genre et le fameux film d'auteur et tout ça, en fait, où maintenant, c'est quelque chose, surtout sur la nouvelle génération qui arrive, où c'est même plus une question, ça va être un état de fait. Et voilà, qu'il n'y ait plus ces cases, ces paroisses, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense qu'on est quelques-uns à participer à ça. Voilà. Mais j'adorerais, effectivement, j'adorerais faire des choses, j'adorerais faire des films plus genrés, en fait. Et surtout, en fait, ce qui m'intéresse vraiment dans cette question, c'est de voir comment le genre aujourd'hui, vraiment du film d'horreur, tel qu'il est, il a des nouveaux codes et comment il est très. Il est très fabriqué aussi, et comment en fait il est quand même en train, mine de rien, de sauver aussi la salle. Donc ça m'intéresse beaucoup, et ça j'aimerais bien y participer, en fait. Après, c'est des vraies questions qui sont toujours les mêmes depuis 30 ans, 40 ans, de comment faire venir les jeunes voir nos films d'horreur français. Et du coup, vu qu'on n'a pas la réponse, moi pour l'instant, le prochain, je ne sais pas le financer, et ça serait un vrai film d'horreur, mais on n'arrive pas à le financer.
Mais est-ce que vous avez renoncé au pur genre précisément parce que c'est difficile de faire du genre en France, et donc du coup ça vous allait éloigner et vous êtes réadapté, ou est-ce qu'au contraire vous avez dès le début, dès Irréprochable, choisi d'aller explorer le genre plutôt dans la psychologie et dans la bascule vers la monstruosité comme vous en parliez il y a un instant?
Bah, je pense qu'en tous les cas, c'était aussi justement où j'arrivais pas aussi à faire des films avant cela. C'était sûrement parce qu'ils jouaient pas le jeu des financements français. Mais ça, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure, en fait, d'accepter aussi l'idée que pour fabriquer nos films, on doit prendre aussi des acteurs célèbres, enfin connus, voilà, bankable et tout ça. Ça, c'est quelque chose, en fait. J'ai résisté assez longtemps, et une fois que j'ai franchi cette digue-là, en fait, ça m'a pas posé problème, parce que je trouvais ça hyper intéressant, justement, d'aller chercher des gens hyper identifiés, les emmener dans nos, voilà, dans nos terrains de jeu aussi différents. Et en fait, ils sont tout à fait friands de ça. Je crois que de toute façon, l'espèce de frontière infranchissable c'est le gore, en fait, je crois. Enfin, à part du Cournot, en gros, quoi. Mais c'est tout. Et parce qu'il y a un truc qui est aussi, qui représente énormément. Enfin, elle représente quelque chose, même au-delà de ses films, en fait. Mais je pense que c'est ça, là. Moi, j'adorerais, mais je sais pas si ça va pouvoir se faire maintenant, et je sais pas si ça se fera pour la salle, en fait. C'est ça la vraie question, en fait, quoi. Donc on est quand même traversé en ce moment par des grandes questions existentielles aussi, de qu'est-ce qu'on fait, pour qui, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on accepte ou pas, et accepter aussi sûrement peut-être que pour faire ce film de genre dont je rêve, mais de pur genre, que sûrement il faudra le faire pour même pas un million, et qu'est-ce qu'on trouve comme idée du coup, mais juste comme idée, que ça soit intrinsèquement lié même au script, que du coup ça doit pas être cher.
Dans vos travaux, en tout cas après Irréprochable, lors de la sortie et l'origine du mal, ce qui est intéressant, c'est que cette naissance du monstre que vous évoquiez, c'est en général souvent un monstre collectif.
Je crois qu'en fait, parce que ça, je m'étais pas forcément posé la question de cette manière-là, j'avoue. En fait, ce qui m'intéressait, et là, ce que j'ai encore plus pris comme plaisir dans l'origine du mal, c'est vraiment recréer un nouveau monde. Ça, c'était vraiment passionnant en termes de direction artistique, et de vraiment de s'échapper encore plus que les précédents, du réalisme, de cette espèce de quotidienneté et tout ça. Et effectivement, là, c'est plutôt comme dans le collège de l'heure de la sortie, on pénètre dans des mondes ultra codifiés qui sont des mondes ailleurs. Et effectivement, vous avez raison, j'avais pas vraiment formulé ça comme ça, mais que le monstre et les collectifs, parce que là, c'est, en plus, c'est pas effectivement sur un perso, mais sur une entité, en fait, quoi, sur une société secrète ou B ou ce qu'on veut et tout ça, une société parallèle, et en tous les cas, qui est absolument déréglée. Moi, ce qui m'intéresse, en tous les cas, s'il y a bien un point commun de ça, c'est aussi de, comment dire, que ce monstre et que cet dérèglement et tout soit aussi lié à une confrontation de classe. Moi, c'est ça qui m'intéresse, évidemment.
Oui, L'Irréprochable, notamment. Parce que
le protagoniste principal de mes trois films est un prolo qui cherche à pénétrer dans un univers dont il n'a pas les codes. J'ai réalisé juste sur celui-ci, sur L'Origine du Mal, parce qu'il y avait quelque chose de plus personnel, puisqu'il y avait des choses qui étaient liées à ma propre famille et tout ça, qu'en fait, je ne faisais que parler de moi, en fait, dans ces films, et comment j'étais toujours le petit prolo des 4000 qui essayait de pénétrer ce monde de la bourgeoisie française du cinéma. En fait, je crois qu'on parle que de ça. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que du coup, peut-être que c'est une entité collective, peut-être qui m'effraie plus maintenant que le monstre... unique, personnel, quoi.
Du coup, le film d'horreur de Sébastien Marnier, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en scène si vous franchissiez ce pas-là ? Quelle est l'horreur que vous aimeriez décrire plus frontalement avec l'image ?
Moi, ouais, quelque chose, en fait, c'est vrai que j'ai toujours eu un truc, moi, avec le film de fantômes japonais ou de zombies, il y a un truc de la lenteur qui m'hypnotise. Il y a quelque chose que... C'est vraiment dans ce genre d'image, de séquence, de plan... que je peux me laisser absorber et perdre pas mal de repères. Donc il y a quelque chose, en fait, là j'avais fait ça dans l'heure de la sortie, d'essayer de faire ce cauchemar de ces gamins qui arrivaient vraiment comme Louana Bajrami ressemblait vraiment à la fille de Cairo. Enfin, il y avait vraiment un truc qu'on avait fabriqué comme ça. Et ça, c'était vraiment... Enfin, moi, j'avais adoré fabriquer ça. Donc il y a peut-être effectivement une question de gestion du... Bizarrement, là, dans tous les films de zombies qu'il y a eu récemment et tout ça, en fait, il y a un truc d'un seul coup maintenant qui devient très hystérique, surdécoupé et tout ça. C'est bizarre, mais peut-être je suis réac là-dessus, mais pour moi, le film de zombies, c'est lent, en fait, tu vois quoi. C'est dans la lenteur, de toute façon, que moi, la peur, elle naît, en fait, quoi. Donc, ça ressemblerait sûrement entre le Cairo de Kurosawa, enfin, qui est vraiment un truc qui m'a terrifié et en même temps... J'aime aussi, et je crois que c'est pour ça que je pense que le film a été aussi important pour moi, Massacre à la tronçonneuse, en fait, sur cette espèce de ruralité, de redneck, il y a un truc à faire quand même en France là-dessus, en fait, quoi. Je trouve que toute l'identité de ce qu'on peut chercher justement sur les films de genre français, sur les régions, sur les territoires, on n'en peut plus de Paris. Enfin, moi, je n'ai jamais fait un film à Paris, et je ne veux pas faire de film à Paris, c'est d'aller chercher les mythologies aussi, les légendes de chaque territoire, en fait, quoi. Et ça, je crois qu'en plus, on peut alimenter plusieurs décennies de cinéma.
Et alors, justement, vous évoquiez au cours de notre discussion la question du budget, jusqu'à quelle hauteur on peut espérer financer un film de genre, et à un moment, vous nous avez dit, oui, et puis bon, il faut réussir à emmener les gens dans la salle. Justement, est-ce qu'il y a eu un avenir pour le cinéma de genre français qui serait, je pense, spécifiquement en dehors de la salle ? Est-ce qu'on peut le penser par et pour des plateformes ? Et qu'est-ce que ça change, éventuellement, comme conception, comme manière de le faire ?
À partir du moment où là, moi, en plus, là, je fais du coup une pause cinéma pour de la série, en fait. Donc, du coup, c'est intéressant d'aller voir déjà que c'est d'autres problématiques. En fait, ça, je trouve ça hyper intéressant aussi, d'aller voir simplement comment ça fonctionne. Et juste pour une truc complètement débile, c'est que je veux savoir comment est-ce qu'on réalise 50 minutes en 10 jours, en fait. Quoi. Je veux juste connaître ça, en fait. Est-ce que je vais en être capable aussi ?
Un petit côté masochiste, donc.
Oui, en tous les cas. Non, mais de rentrer aussi un peu. Enfin, c'est intéressant, qui se passe aussi, et après c'est d'autres problématiques encore une fois, de toute façon il va falloir cohabiter, je veux dire, avec que la salle et les plateformes cohabitent, c'est ce qui va se passer, parce que je suis sûr que la salle va résister, que ça va être un massacre à des endroits, mais que ça va résister, et que sûrement qu'il y aura vraiment des gros films et des tout petits films. Et peut-être que du coup, bah, ça sera en faisant des trucs pour les plateformes où on gagnera un peu notre vie aussi, que ce soit pas qu'une vie sacrificielle pour le cinéma, mais... Franchement, enfin oui, après je crois que le truc de toute façon, ce qui est très compliqué, on le sait très bien depuis longtemps avec tous nos amis de la French Frayeur et tout ça aussi, qui parlent des mêmes choses, c'est-à-dire que c'est comment le public, le jeune public va pas voir nos films d'horreur, parce que c'est en français, aussi bête que ça, enfin c'est quand même un énorme problème en fait quoi.
C'était rigolo parce qu'on en avait discuté à l'occasion d'une table ronde et y a quelqu'un qui avait eu cette réflexion que je trouvais hyper juste et qui nous disait dans le public, mais en fait... Quelqu'un qui a peur en français qui dit attention à un monstre derrière toi, ça ne me fait pas peur. C'est-à-dire que notre imaginaire est tellement conditionné par l'horreur anglo-saxonne que le français sonne faux, c'est fou quand même.
C'est pas notre imagination, c'est vrai.
Ouais, mais c'est dingue.
Et à partir du moment en plus où, pour des films de cinéma, si on ne tourne pas en français, en fait, on n'a pas la plupart des aides. Donc ça, déjà, c'est. Est-ce que c'est des questions qu'il faut. Enfin voilà, ça, c'est un autre problème.
Mais vous iriez tourner un film d'horreur aux États-Unis, par exemple, au Canada ?
Mais pourquoi pas ? Enfin, franchement, oui, pourquoi. Enfin. Toutes les expériences sont... Mais oui, bien sûr. Et puis franchement, moi, si mon film de zombie chelou et politique, j'arrivais à le faire pour une plateforme, en vrai, j'irais. Et je trouve, moi, j'en discutais. La dernière fois que j'étais venu là et tout ça, en fait, j'ai discuté vachement avec Aja, Alexandre Aja, qui était là. Et en fait, il me fascinait parce que, en fait, il est en train de me raconter là qu'il avait la première commande de la première série à la verticale, le premier film à la verticale. J'étais là, quoi et tout. Et en fait, lui, ça l'excitait parce que, en fait, c'est vrai que ça change absolument tout le rapport au cadre, à tout, en fait, quoi. Et du coup, en fait, c'est pas moins bien, c'est autre chose, c'est un nouveau terrain de jeu. Après, du coup, tu te dis, waouh, regardez quand même des trucs sur les portables. Après, mais ça, c'est pas ma génération, c'est juste ça. En fait, je peux pas regarder un film sur un téléphone, mais après, s'ils regardent sur des téléphones, c'est pas grave, en fait.
On a aussi cette mode, à un moment, de revenir à des formats carrés dans un certain genre ou un certain cinéma d'auteur, où on peut imaginer que le format rectangulaire, vertical puisse, lui aussi, pourquoi pas, être projeté sur un grand écran, en fait. Mais ça n'est jamais qu'une autre modalité de l'image.
Oui, en fait, par rapport à Mommy, est-ce qu'il y a vraiment, enfin, par rapport à ce format-là, est-ce qu'il y a vraiment, il y a énormément de films, ce que j'appelle les films un peu Instagram aussi, là, sur ces trucs carrés, après, qui peuvent être comme Falcon Lake, hyper beau à plein d'endroits et tout ça, mais il y a aussi cette esthétique un peu filtre Instagram, vous voyez, et tout est possible. D'ailleurs, moi, c'était intéressant aussi sur l'heure de la sortie, comment on avait plein de formats différents, en fait, justement, avec toutes les incursions dans des trucs d'internet et tout ça, des trucs d'horreur et tout ça. Non, franchement, enfin, moi, je crois qu'il faut se poser ces questions là et pas du tout avoir de snobisme par rapport à ça. Et si effectivement le fait que on puisse faire des films plus bizarres, ou en tous les cas plus même classique aussi, en fait, parce qu'on a envie simplement, une fois dans une carrière, de faire un vrai film de zombie ou un vrai film de pur gore, de slasher, tout ce qu'on veut et tout ça. On a le droit aussi. On peut aussi raconter des trucs qui ne soient pas que personnels et tout ça, en fait, de faire du pur divertissement aussi. Peut-être que ça sera sur les plateformes, parce que la question de la langue, elle est quand même aussi différente, du coup, quoi.
J'ai le sentiment toujours qu'en cinéma, il y a des genres voisins, tu vois, presque qui sont séparés, en fait, combien ils semblent différents par vraiment du papier à cigarette, par exemple. Je pense que l'action et la comédie musicale, c'est très proche. Et bien souvent, moi, je me dis que les mécaniques de l'horreur et de la comédie sont elles aussi.
Comme la pornographie et le documentaire animalier.
Et tout à fait. Ouais. Sont extrêmement proches. Bah, non, il ne faut pas que j'enchaîne. Sont extrêmement proches. Et tu vois, je me faisais la réflexion là sur l'origine du mal. Vous êtes vraiment tout très très proche de ça dans le film. Est-ce que c'est aussi un autre genre ou cinéma de genre qui vous peut.
La comédie.
La comédie noire ou grinçante.
Oui, oui. Après, là, moi, ce qui m'intéressait vraiment dans l'heure de la sortie, dans l'origine du mal, c'était parce que j'avais déjà plus flirté avec ça sur l'heure de la sortie, parce que les gamins, ils étaient aussi drôles, tellement ils étaient insupportables aussi. Alors, en fait, là, j'aimais cette idée parce que je trouvais que c'était d'avoir toujours ça en tête, vu que je voulais donner aussi ma vision de la famille, en fait, quoi, que ça soit tout ça à la fois, à chaque fois. Et ça, c'était hyper intéressant à fabriquer avec les acteurs et après au montage aussi, que dans une séquence, mais parfois au sein du même plan, que le spectateur ne sache pas quoi penser. Et ça, enfin, c'est pas qu'il sache pas quoi penser, mais comment réagir. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est pathétique? Ou est-ce que c'est terrifiant? Et c'est sûrement les trois en même temps. Et ça, en tout cas...
Les plans avec Jack Weber qui sont très, très... Enfin, c'est très juste, ça. Il y a des moments
mais
où
en
tu,
fait,
tu... Jack Weber, et puis tous,
de toute façon, ils sont tous affreusement pathétiques, drôles et méchants aussi, en fait, quoi. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et j'avais envie de ça sur ce film-là, avec 14 rebondissements de fin, que ça s'arrête jamais. Enfin, il y avait ce plaisir aussi très kitsch et baroque que j'avais vachement envie sur ce film-là, en fait. Mais c'est vrai que je trouve que ça, sur les choses que j'écris en ce moment, sur cette ambivalence de la sensation, du sentiment, justement, pour, comment dire, sur cette réflexion, justement, dont on parle à l'instant, sur dans quelle case on fout un film, que même qu'on ne sache pas mettre dans quelle case ce plan-là ou cette séquence-là. Ça, c'est hyper intéressant. Ce qui perd des gens en route, hein, parfois, mais moi, ça m'intéresse beaucoup.
Et justement, c'est intéressant parce que vous échappez justement un peu à cette catégorisation. Encore une fois, on vous intègre et on vous considère facilement comme un auteur de films de genre, même si vos films, encore une fois, ne sont pas ouvertement des films de genre. Est-ce que vous pensez que cette capacité, ou en tout cas cette tendance très très française à vouloir absolument définir et mettre des étiquettes sur des auteurs, des réalisateurs, c'est quelque chose qui est difficile à casser? C'est plus facile de le faire maintenant?
C'est exaspérant. Sincèrement, je ne vais pas dire autre chose. Ça me crispe profondément et je trouve ça surtout stupide. Et je pense que ça, c'est encore la fin d'un monde qui est en train de s'écrouler, en fait, et qui a une vision totalement bourgeoise et étriquée des choses, en fait. Et je pense que moi, je suis plus jeune, en fait, et que tous les jeunes ne s'embarrassent absolument pas de cette question. Que ça soit, de toute façon, la question du genre, de manière absolument générale, du genre sexuel ou du genre cinématographique, et le cadet de leurs soucis, et justement, est un truc qui est revendiqué politiquement. Et ça, c'est fini. Mais nous, on paye encore le... Enfin, moi, ça m'a fait plaisir que les Jokers se posent la question sur l'origine du mal, qu'est-ce qu'on met comme genre sur le film, quoi. Et presque, moi, je me disais, ah, bah, ça, au moins, j'ai réussi un peu. Ça me faisait marrer. Après, franchement, c'est une connerie parce que c'est compliqué aussi, après, à marketer tout ça. Mais et après, on le market. Moi, j'étais hyper content de ce qu'on a fait, là, sur l'affichage. Mais c'était pas totalement le film non plus. Mais c'est pas grave. C'est aussi des trucs publicitaires, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un truc, comment dire, politique, je trouve aussi, d'essayer de faire voler en éclats ces trucs-là.
Mais est-ce que vous pensez que d'une certaine manière, vous êtes aussi un peu victime de cette difficulté d'étiquetage? On en parlait dans le podcast. Vraiment, on trouve que, par exemple, votre absence de nomination au César est vraiment le vrai problème de cette sélection de 2022. Est-ce que vous êtes à un endroit qui est effectivement insaisissable et donc, du coup, qui fait que l'industrie ne vous tend pas complètement la main, ne vous considère pas au titre où vous devriez être considéré comme un des jeunes réalisateurs intéressants et importants de ces années 2010-2020, quoi?
Je sais pas trop quoi penser de ça. Vous dire maintenant, c'était le jour des nominations, franchement, je ne vais pas mentir, j'étais déçu. Pas pour moi, parce qu'au fond, de toute façon, je sais pas, j'ai un rapport ambigu avec les Césars aussi, je ne sais pas quoi penser de ça, en fait, quoi. Est-ce que c'est nul ou est-ce que c'est bien? Je comprends que ça soit une kermesse intéressante et que ça soit une mise en lumière sur les films. Mais j'ai pas du tout. Enfin, j'ai aucune aigreur par rapport à ça. En vrai, vraiment, j'étais déçu pour mes comédiens et pour mon équipe. Je le dis tout à fait honnêtement et tout ça. Mais j'ai aucune aigreur par rapport à ça. Je trouve que, en fait, il faudrait être naïf pour pas penser que ça va se passer comme ça. En fait, et je sais que ça va se passer comme ça depuis le début. En fait, c'est-à-dire que. De toute façon, sur les Césars, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, à part effectivement un ovni qu'on met en avant, comme en plus, moi, j'adore Pacifiction, donc je trouve qu'il faut se réjouir qu'un film comme ça ait 9 nominations et tout ça.
On peut rappeler que Marina Foïs avait été sélectionnée pour Irréprochable.
Voilà, et pas mon film en tant que premier film. Voilà, et ça, j'étais. Mais après, le truc, c'est. Comment dire? Effectivement, je pense que. On me le dit toujours, encore une fois, de toute façon. Enfin, on me le dit toujours, là, sur mon film d'horreur que je n'arrive pas à produire. Est-ce que. C'est un film de genre, est-ce que c'est un film d'auteur? Et on en est là encore, donc ça, j'ai envie de mordre, j'ai envie
la carotide, il faut attaquer
oui,
la carotide.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà, j'ai envie d'attaquer là, parce que c'est stupide, mais ça, encore une fois, c'est une vision d'un ancien monde en fait, mais qui est quand même encore extrêmement présent. Et en plus, je pense que sincèrement, sur l'origine du mal, et en plus, vraiment, j'accepte vraiment ce truc-là, enfin, les autres films sont bien, j'ai aucun souci avec ça, mais je pense effectivement qu'un film qui flirte avec le genre, qui n'a pas fait 300 000 entrées non plus, on va pas se mentir, le film fait 150 000 entrées, nous on est plutôt contents dans la période actuelle, en vrai, le film était super bien soutenu, on a fait des beaux festivals et tout ça, après ça reste des films chelous, enfin faut dire ce qui est aussi en fait quoi, donc on sait très bien qu'on va pas faire 400 000 entrées avec ça, et alors sur l'ordre de la sortie, on savait que ça marcherait pas du tout. Et c'est pas, en fait, ça c'est pas si grave en fait, tu vois. Mais je pense que quand même que les votants des Césars et tout ça, déjà, je pense qu'ils ont pas vu le film.
Ça c'est sûr, on en parlait hier, c'est évident.
Je pense qu'ils ont pas vu le film. Mais alors comment changer les règles de ça? Comment changer les règles des Césars? C'est compliqué. Moi j'ai pas du tout la clé. Soit on arrête les Césars et en fait ça ne manquera à personne en vrai. Soit c'est comme ça et c'est les gens qui votent, et en même temps là je trouve qu'il y a un vrai truc problématique quand on lit effectivement qu'il y a seulement 67% des gens de l'académie qui ont voté au premier tour. Ça veut dire qu'il y a plus d'un tiers des votants de l'académie et tout ça qui n'ont même pas eu envie de voter. Donc c'est quand même, il y a un énorme souci en fait, quoi.
Il y a un petit problème.
Il y a juste deux choses, c'est-à-dire que donc nous, enfin vraiment, on déplorait parce qu'on trouve que vraiment votre cinéma est intéressant et que c'est un cinéma qu'on a envie de soutenir. Et deux, de toute façon, quelqu'un qui porte une bague avec le masque de Jason le mort-vivant est forcément quelqu'un de sympathique.
Ben, je vous remercie. Mais je pense aussi quand même que la question, quand même, surtout sur un film comme je l'ai vu dans certaines avant-premières que j'ai fait en province et tout ça, de l'origine du mal, un film qui étrille à ce point le patriarcat et qui soit vraiment complètement pédé aussi, enfin on va pas se mentir que ça aide pas non plus en fait quoi. Et c'est pas très grave en vrai, c'est pas si grave. Après le principal c'est qu'on arrive quand même encore à faire les films quoi, et
grâce au soutien de Caroline Bonmarchand, qui est votre productrice, qui vous a soutenu depuis le début.
Bien sûr.
Vos deux premiers films, vous les faites sans le CNC. Enfin, je veux dire, vous avez la chance d'avoir une productrice qui a
vraiment accompagné votre... Je vois aussi, malgré tout, l'évolution des trucs. C'est-à-dire que l'origine du mal, c'est la première fois que j'ai l'avance-recette, par exemple, en fait, quoi. Alors que j'ai passé avant ça 14 fois l'oral de l'avance-recette sans jamais l'avoir eu. sur
donc ça bouge malgré tout.
Donc ça bouge.
Vous êtes obligé de les faire vous regarder, de composer.
Mais
avec
ça bouge, mais parce que j'ai fait deux films avant, et puis forcément que voilà, on m'appelle pour deux choses, parce que plus on fait des films, plus déjà je me rends compte d'avoir fait trois films comment ça change le regard en fait quoi. C'est étonnant. Mais bon bref, mais je pense que tous ceux qui arrivent vont faire beaucoup plus bouger les lignes encore quoi. Franchement.
Et moi pour terminer, j'avais bien envie de vous entendre sur la question des comédiens, parce que c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on pense cinéma de genre, horreur, fantasy. Et justement, vous êtes un metteur en scène qui est un metteur en scène qui a du style, c'est indiscutable, mais qui a aussi un travail sur la direction d'acteurs. Donc je serais curieux de vous entendre sur comment vous travaillez avec eux, comment vous construisez les personnages et comment vous travaillez avec vos comédiens, parce que vous faites partie dans les réalisateurs français qui sont invités à Gérardmer, je pense, d'un de ceux qui a un des regards les plus acérés là-dessus.
Ça me fait plaisir, parce que je crois que c'est vrai.
Sans mais c'est vrai.
Voilà,
on partage un seul cerveau avec Simon.
En tout cas,
on est
après, je peux me poser
même
des milliards de questions sur mes films et de ça, mais je crois que le travail qu'on fait avec les acteurs dans mes trois films est très singulier. Et ça, c'est quelque chose que je revendique. Déjà aussi, je pense effectivement que mes films sont à une limite aussi, justement, s'ils étaient plus gore et tout ça, en fait, où ils ne viendraient pas, déjà, en fait. Donc, je pense qu'ils sont à un endroit où le genre les intéresse, mais aussi parce que ça ressemble quand même à un film sur le papier plus classique, on va dire. Et puis maintenant, ils savent aussi comment je travaille et tout ça. Mais je crois, en fait, que ce qui est très hérité du genre, c'est que moi, mes acteurs sont avant tout, et c'est comme ça que je les considère, même si on va parler de la psychologie, des personnages et tout ça, mais comme des corps. Et c'est ça, en fait, je crois qu'ils intéressent, c'est que moi, à chaque fois, j'ai toujours filmé le corps de mes acteurs, soit dans leur nudité, soit dans l'effort, beaucoup, dans le sport, dans la tension et tout ça. Et ouais. Oui, et puis là, je trouvais, j'adorais aussi sur que Weber, par exemple, m'autorise aussi à filmer un vieux monsieur gros aussi, en fait, qui a ce corps-là, que la première fois qu'on voit Dominique Blanc, qu'elle soit dans une espèce de nuisette léopard transparente, en fait, où on voit ses guibolles incroyables, en fait, quoi, et que tout le monde, on voit tous mes acteurs sont toujours à peu près à poil, de toute façon, quoi, et sauf les enfants, parce que dans l'heure de la sortie, je pouvais pas, quand même. Ça, je crois que c'est, enfin, sur tout le travail qu'on peut faire sur le rythme, justement sur la rythmie, mais quand même tout ce qu'ils peuvent apporter. En fait, moi, j'épure vraiment les dialogues le plus possible pour que ça soit que le corps qui prenne ça en compte, en fait, quoi, en charge du moins. Ça, je crois qu'ils aiment bien. Et puis et là, c'est vrai que sur L'Origine du Mal, il y avait aussi c'était pour moi la première fois vraiment que j'assumais ce truc aussi d'humour. J'avoue qu'en tant que metteur en scène, quand on fait des avant-premières et qu'on a une salle qui rit beaucoup à des trucs que vous avez écrits comme ça un peu dans votre coin, c'est une récompense très agréable aussi, et pour les acteurs aussi, quoi, faut dire ce qui est. Parce que bon, la peur et tout ça, en fait, on peut la ressentir dans une salle. Mais le rire immédiat, j'avoue que c'est trop bien, quoi.
Et on a des souvenirs émus de Laurent Lafitte en slip aussi.
J'ai une toute
dernière question. La dernière fois que vous avez eu peur, la dernière fois que vous avez eu la trouille, c'était quoi? C'était quel
au
film?
Au cinéma,
en
vraiment. Bah, ça commence à remonter, mais vraiment, j'ai eu des vraies frousses. La vieille qui avance tout doucement dans It Follows m'a vraiment fait peur. Et le géant aussi, d'ailleurs. It Follows, ça m'a vraiment foutu les boules. Je crois que cette histoire de contamination, il y a quelque chose que je trouvais fort. Et je ne crois pas que j'ai ressenti ça vraiment. Comment ça s'appelle le truc de Disney, la Barbarian, c'est ça?
Barbarian,
ouais. Il y a des trucs dans le sous-sol qui me font quand même peur, en vrai.
Ouais. Merci beaucoup, voilà. Sébastien. On peut se tutoyer maintenant,
parce
que
merci.
Super, t'es hyper cool.
Merci, les gars.
Merci, Sébastien.
À bientôt, bon festival. Ouais.
Ouais, bon festival à vous, à toi, à nous.
C'était très bien, c'était parfait, c'était très bien. Alors, très bien.
Voilà, Factotum, c'est le mot qu'on a appris dans cet épisode, et c'était notre épisode spécial 30 ans de Gérardmer. On espère que vous étiez bien. Nous, on ne peut pas vraiment dire qu'on est tout à fait bien, je veux dire qu'on est quand même dans un sale état, mais allez, on n'est quand même pas si mal, on a passé un super festival. Et enfin, évidemment, si on ne prend pas en compte l'odeur comme catégorie pour qualifier ce qu'il reste de ces 5 jours à Gérardmer. On se retrouve vendredi pour l'épisode hebdomadaire. D'ici là, n'abusez pas du vin vosgien. Enfin bon, je suis assez mal placé pour en parler. Bye les amis, et gloire au Munster.
Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé.
Au quatrième stop, il sera exactement 0h13.
Oh la vache, moi je vais être en retard au lycée.
Oh bah dis donc, t'es bien pressé, toi, je dois.
Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en.
Arrivederci, et buon viaggio.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.